chef de file des soins infirmiers, assurant la sauvegarde des hautes normes de qualité, cherchant à promouvoir l'enseignement, la recherche, l'encadrement, le soutien et le développement des compétences et de l'excellence clinique. Nous sommes la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu. Bienvenue à Savoir et Stéthoscope.
Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode du balado Savoir et Stéthoscope. Donc, vos animatrices aujourd'hui, moi-même, Julie Blanchette.
Et Sophie Martin.
Donc, aujourd'hui, on aborde un sujet qui est de plus en plus mis de l'avant, notamment avec les derniers travaux du gouvernement, du ministère et au sein de notre établissement aussi, c'est l'implication des personnes proches aidantes. Donc, aujourd'hui en studio, nous accueillons pour en discuter Mme Sabrina Marois-Gagnon, qui est APPR, je veux dire l'acronyme, ça marche, au service d'expérience usagée et qui est responsable du projet sur la collaboration avec les personnes proches aidantes à l'hôpital. Et on reçoit aussi Mme Joanne Chrétien, qui est une personne proche aidante collaboratrice d'abord pour son père, collaboratrice aussi pour le projet au sein de l'établissement. Donc, bienvenue à toutes les deux.
Merci beaucoup.
Merci, bonjour.
On pourrait tout de suite commencer avec une première question, si vous voulez bien, pour un petit peu briser la glace à l'introduction. Pourriez-vous nous dire un peu comment vous vous êtes rencontrés?
Oui, bien sûr. Mais en fait, depuis 2022, on travaille sur un projet qui vise à favoriser la présence des proches dans nos installations, puis à mieux collaborer avec entre les équipes, à améliorer la collaboration entre les équipes de soins et les proches aidants. On a d'ailleurs un projet pilote sur 8 unités d'hospitalisation et on a un petit groupe de travail qui pilote le projet. On souhaitait avoir des vrais proches aidants avec nous pour nous aider à réfléchir aux pistes de solutions puis à vraiment bien comprendre la réalité et les besoins des proches aidants. Donc, c'est une de mes collègues qui m'a parlé de Joanne, qui venait de vivre une expérience comme proche aidante avec son père et qui souhaitait s'impliquer.
Joanne, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton implication avec Sabrina?
Oui, en fait, je participe à différents comités où il y a des gestionnaires, des professionnels. Il m'arrive de partager des témoignages sur la situation que j'ai vécue. Puis aussi, on me sollicite là, pour la conception d'outils, voir si ça fait du sens, puis je peux collaborer de cette façon-là aussi.
J'ai vraiment hâte d'échanger avec vous dans notre épisode. Merci d'être là.
Merci.
Merci de nous recevoir.
Nouveauté, développement, accomplissement. Quoi de neuf à la DSI?
Saviez-vous que depuis avril 2024, il n'y a plus d'heures de visite dans les CHSLD et centres hospitaliers du CIUS de l'Estrichu? Les proches sont bienvenus en tout temps lorsque leur présence est bénéfique et sécuritaire. Pour assurer le bien-être de tous, on demande aux proches de respecter les 5 consignes suivantes. Visiter l'usager seul ou en petit groupe, favoriser le rétablissement et le repos de l'usager, respecter les règles d'hygiène, de prévention et de contrôle des infections, contribuer à maintenir un environnement calme et sécuritaire, et valider au préalable avec l'équipe ce qu'ils peuvent faire pour aider l'usager.
Vous savez que les personnes proches aidantes sont souvent le relais entre le patient et l'équipe de soignants. Ils peuvent fournir des informations précieuses sur les antécédents médicaux de la personne, ses habitudes de vie ou même ses préférences. Des informations qui permettent vraiment une personnalisation de nos soins. Leur connaissance intime du patient peut aussi aider à clarifier parfois des symptômes ou des comportements qui ne sont pas toujours évidents pour les soignants. Les proches aidants sont souvent les premiers à remarquer des changements dans le comportement ou la mémoire de la personne qu'ils aident. En étant attentifs aux signes comme la confusion, la perte de mémoire, la désorientation ou les difficultés à accomplir des tâches quotidiennes, ils peuvent repérer les premiers symptômes d'un délirium en stade précoce. Donc, leur présence rassure et aide l'usager à mieux gérer l'anxiété, la solitude et l'incertitude liées à la maladie.
Nos invités nous parleront de l'importance de la collaboration entre les équipes de soins et les proches aidants. Tout d'abord, pourriez-vous nous préciser qu'est-ce que c'est une personne proche aidante?
Bien sûr, moi je vais vous présenter la définition officielle, mais j'aimerais aussi que Joanne, qui est une vraie personne proche aidante et qui le vit au quotidien, vous en parle aussi dans ses propres mots. Donc, un proche aidant, c'est quelqu'un qui apporte un soutien significatif ou occasionnel à un proche qui a une incapacité temporaire ou permanente. C'est pas nécessairement un membre de la famille, puis ce n'est pas nécessairement de faire des soins d'hygiène, s'en occuper 24 heures sur 24. Ça peut être de coordonner des rendez-vous médicaux, d'assurer le transport, d'aider à faire des courses. D'ailleurs, tu sais, un parent qui s'occupe de son enfant qui a des besoins de santé ou des besoins particuliers, bien, c'est un proche aidant aussi.
Donc, Joanne, est-ce que tu veux nous parler, toi, de ta réalité? Puis selon toi, c'est quoi être proche aidant?
Oui, bien en fait, ça a été nommé. Sur les tâches, la compréhension de ce qu'on peut donner comme information, notre rôle pour soutenir une personne en incapacité, de la coordination. C'est aussi la personne qui connaît les particularités de l'individu. Qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il mange pas, pourquoi il réagit de telle façon. Puis c'est l'autre, c'est peut-être le troisième aspect que je pourrais rajouter à ce que vous avez déjà mentionné, là, qui fait que c'est important qu'on soit entendu, parce que quand la personne choisit de pas manger, c'est parce qu'elle aime pas ça. Fait que, tu sais, je comprends qu'on est dans un univers où tout doit rouler de façon assez fluide, mais reste que c'est les particularités des gens qui fait que c'est ce qu'on apporte, là, définitivement, cette connaissance-là.
Joanne, tu nous disais là, avant qu'on entre dans le studio pour l'enregistrement du balado, qu'il y a des similarités entre les équipes soignantes et les proches aidants. Qu'est-ce que tu voulais dire en disant ça?
Oui, en fait, d'abord, j'ai envie de dire du côté des intervenants, la vocation de soigner, là, minimalement au départ d'un choix de profession comme ça, c'est pour ça qu'on choisit d'être clinicien, qu'on veut aider les gens. Les proches aidants, eux autres, ont aussi l'intention d'aider le proche en incapacité. Fait que c'est la première chose, je trouve, qui nous rassemble dans nos intentions au départ. L'intervenant veut veiller sur la condition clinique pour l'amélioration ou le bien-être de la personne. C'est sa priorité dans ses soins, c'est clair. Puis nous, ce qu'on veut offrir, c'est ce qui est un peu complémentaire à ça. C'est tout le TLC, là, prendre le temps de répéter, prendre le temps de rassurer, s'assurer qu'ils ont compris, s'assurer qu'on fait les bonnes choses au mieux. Fait qu'on est dans les mêmes objectifs, c'est ce qu'il faut pas perdre de vue. En plus de ça, nous, on offre le soutien logistique à la personne qui est en incapacité. C'est ce que Sabrina mentionnait tantôt. Ce qui nous rassemble aussi, c'est la charge mentale qui est importante. On va pas revenir sur le fait que c'est difficile dans le réseau, puis c'est extrêmement lourd pour le personnel. Mais il faut pas oublier que les proches aidants ont aussi une charge mentale. Puis peut-être la différence, là, c'est que la nôtre, elle est en dessus de notre travail quotidien. La vôtre, elle est dans le cadre de votre travail, mais la nôtre, elle est un peu par-dessus tout ça. Puis l'autre dernier point qui nous rassemble beaucoup, je trouve, c'est toute l'importance de l'information. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, là. Vous avez besoin de ces informations-là pour bien intervenir. Puis nous, on a besoin des mêmes bonnes informations complémentaires pour être capable d'être absolument efficient pour nous-mêmes, pour notre proche, puis pour votre travail aussi. Fait que, de toute évidence, on a les mêmes priorités complémentaires.
Puis toi, Sabrina, justement, tu es allée sur le terrain rencontrer justement les personnes proches aidantes là, et les équipes aussi. Est-ce que tu en arrives un peu au même constat que Joanne?
Vraiment, mais une fois que Joanne l'a verbalisé, ça a été encore plus clair pour moi, cette prise de conscience-là. Fait que je suis vraiment d'accord avec elle. T'sais, des deux côtés, je vois des gens qui ont une charge énorme sur leurs épaules. Je vois aussi, autant chez les proches aidants que chez le personnel, des gens qui ont d'importantes connaissances qui peuvent contribuer au rétablissement ou au bien-être de la personne. Et puis, je vois également des deux côtés des personnes qui doivent prendre des décisions pas toujours faciles, qui sont impactées par plusieurs facteurs. Tu sais, il faut Joanne le nommer, ça doit être fluide, ça doit aller vite. Il y a beaucoup de monde impliqué. Puis parfois, on vit des contre-coups de cela, autant du côté du personnel que des proches aidants et des usagers. Donc, on a fait plus de 50 entrevues avec des proches aidants où on allait s'asseoir avec eux, discuter pendant 15 minutes. Une chose qui m'a étonnée, c'est que 100% d'entre eux, à un moment donné, m'ont dit « Hey, une chance que j'étais là. Une chance que j'étais là pour donner telle information. Une chance que j'étais là pour prévenir tel incident. Une chance que j'étais là pour retenir telle information pour, au conjoint, mon proche, être capable de m'en occuper. » Donc, je pense que c'est pas banal du tout. Puis je constate surtout qu'on n'a peut-être juste pas pris conscience de ces similarités-là, puis qu'on n'a pas réalisé à quel point travailler ensemble, ça peut être bénéfique. Je pense qu'on a un grand intérêt à apprendre à se connaître, puis à s'intéresser à la personne qui est un proche aidant. C'est plus qu'une question d'empathie, c'est vraiment pour mieux travailler ensemble.
Joanne, on est vraiment chanceux de t'avoir avec nous parce que quand on parle de proche aidant, on peut avoir une idée, on peut avoir peut-être une petite idée de qu'est-ce que c'est, mais quand on l'a pas vécu, mais on peut pas vraiment prendre toute la mesure de ce que c'est être proche aidant. Donc, d'après toi, c'est quoi qu'on perd de vue quand on parle de proche aidant et qu'on l'a pas vécu?
Là, je vais faire une petite parenthèse, je me le permets, là, mais moi, j'ai pas accouché d'enfant, là, mais je pense qu'un parent peut pas savoir c'est quoi être parent tant qu'il n'y a pas eu d'enfant. Et c'est la même affaire proche aidant. On ne peut pas savoir c'est quoi proche aidant tant qu'on n'a pas eu quelques mois ou quelques années de proche aidance. Là, c'est vraiment la vie qui vient de côté. Puis on doit mettre plein de choses de côté pour focusser sur cette fonction ou cette responsabilité-là. Cela dit, ce qu'on perd de vue, je trouve, là, pour les intervenants à l'égard des proches aidants puis des usagers, vous l'avez mentionné, puis c'est comme ça qu'il faut le voir. Les usagers comme les proches aidants, c'est des gens qui sont en incapacité temporaire ou permanente. C'est des gens comme vous, c'est des gens comme moi, des infirmières là, qui vont se ramasser dans un hôpital loin de chez elles avec un proche, vont se ramasser comme nous, là, des proches aidants pas connus, pas reconnus, obligés de démontrer leurs compétences, obligés de se faire entendre pour la personne, pas pour elle, là, mais pour l'usager. Fait que ça se perd de vue. Le fait que c'est des êtres humains comme vous et moi qui sont en incapacité temporaire ou permanente. J'ai été, moi, me faire opérer, là, puis j'ai pas dit que je collaborais au service usager. Puis la personne, elle avait... J'étais une parmi tant d'autres, hein, tu sais, ça roule, puis... fait que là, ça, c'est un peu désolant. Fait qu'on perd de vue l'individualité ou l'unicité de la personne qui est devant nous avec son environnement. Ce qui se perd de vue aussi, c'est peut-être la charge mentale du proche aidant qui est devant nous. On a beau être assis à côté du lit de la personne, là, on a plein d'affaires qui roulent, il y a plein de choses qu'on n'a pas faites, il y a plein de choses qu'on va faire en sortant. Nous aussi, on est en attente du médecin pour donner les consignes avant de pouvoir s'en aller, avant de pouvoir appeler des personnes. Fait que tout ça, c'est absolument lourd. Puis honnêtement, là, ça se compare peut-être la charge d'un proche aidant à des infirmières en TSO. L'infirmière ou tout le personnel en TSO, là, je suis consciente que travailler, c'est déjà lourd, mais la personne qui se fait obligée de rester quand elle a... Je reconnais ça, là. C'est qu'on doit être probablement au même niveau de charge mentale. Puis peut-être le dernier point que je dirais, c'est toute leur utilité aux proches aidants. On va y venir tout à l'heure, là, mais il y a des impacts cliniques à pas écouter les proches aidants parce que les usagers sont pas toujours en état de dire les choses. Puis la fenêtre pour communiquer, elle est tellement courte. Quand quelqu'un débarque, là, il veut prendre l'information, il vient chercher de l'information bien précise, puis après ça, ben il repart. Fait que si j'ai oublié de dire quelque chose, ben sorry, là, il va falloir que j'attende que quelqu'un revienne, puis ça va peut-être aller à demain, ça va peut-être être... Fait que c'est un peu ça, je pense, qu'on perd de vue là, dans l'importance de la communication.
J'aime énormément le comparatif que tu as fait en lien avec les infirmières et infirmiers en TSO. Je lisais dernièrement que c'est près de 55 % des personnes proches aidantes qui sont encore au travail, qui ont encore des enfants de moins de 18 ans à la maison. Donc, c'est carrément, finalement, un double travail, finalement. Tu sais, fait que je trouve ça excellent, la comparaison. Dis-moi, Sabrina, dans ton projet pilote, justement, là, comment ça ressort tout ça dans les unités de soins?
Ce que Joanne disait, là, d'entrée de jeu, sa petite parenthèse de, tu sais, faut être parent là, pour pouvoir bien comprendre. Ben, moi, je le constate vraiment aussi. D'ailleurs, je travaillais avec une stagiaire qui m'aidait à faire les entrevues. Puis elle m'a posé la question, elle m'a dit, est-ce qu'il y a un titre d'emploi ou peut-être le personnel qui est d'un certain groupe d'âge avec qui ça va mieux la collaboration avec les proches aidants? Puis là, je lui ai répondu, j'ai pas fait d'études approfondies sur ce sujet-là, mais vraiment, ce qui me frappe, c'est les gens qui l'ont vécu. Les gens qui ont eux-mêmes été proches aidants. Pour eux, là, c'est clair, là, la raison d'être, le pourquoi, le comment, l'aisance. C'est vraiment ça qui fait la différence. C'est pas une question de titre d'emploi, d'études ou d'âge. C'est vraiment de l'avoir vécu. La proche aidance, ça nous concerne tous. Si on l'est pas actuellement puis qu'on l'a pas été dans le passé, ben assurément, on va l'être plus tard. On est combien d'employés là, dans le réseau de la santé? Combien qu'il y a à parier que parmi nos collègues, il y a des proches aidants là-dedans. Donc, vraiment, ça concerne tout le monde. T'sais, d'ailleurs, il y a deux personnes avec qui je collabore pour les projets pilotes qui l'ont vécu eux-mêmes dans les dernières années. Puis c'est des gens qui sont dans le réseau depuis super longtemps, qui ont des connaissances cliniques et tout ça. Puis ils m'ont dit, mon Dieu, je comprends tellement mieux ce que vivent les proches aidants une fois que tu es assis de l'autre côté, que tu n'as pas accès à toute l'information et aux professionnels comme dans le cadre de ton travail. C'est vraiment, là, pour eux, ça leur a fait réaliser toute l'importance de cette démarche-là. Je pense aussi que ce que je vois aussi dans le projet pilote, c'est que parfois, on peut avoir des idées préconçues. Je donne un exemple. Là, je travaillais sur un groupe de travail qui voulait faire l'élaboration d'un guide pour pour les proches aidants dans des situations de fin de vie. On voulait y inclure une section « Qu'est-ce que le proche aidant peut faire? » Puis il y avait des professionnels autour de la table qui disaient « Non, 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 les proches aidants sont fatigués, on ne veut pas leur en demander plus, on ne leur demandera pas de s'impliquer, puis on va les laisser se reposer. » Et puis autour de cette table-là, ben, il y avait une personne qui venait de le vivre avec son père puis qui a dit « Eh bien, moi, là, avoir su que mon père, en fin de vie, je pouvais lui mettre de la crème sur les mains, sur les pieds. Là. Juste ça, là, ça aurait fait la différence pour moi, pour lui, qui me sentait impuissante puis qui cherchait à avoir un moment de proximité puis je ne savais pas quoi faire. » Donc, tu sais, c'est une idée préconçue qu'on peut avoir. D'un autre côté, j'ai une situation où une dame me disait « Moi, j'ai fait tel soin à mon mari une journée. Mais après ça, quand je revenais le visiter le lendemain, il y avait toujours le petit bocal de soins d'hygiène qui m'attendait. Mais on ne m'a pas demandé si, parce que je l'avais fait une fois, j'acceptais de le faire aussi à tous les jours. Donc, bref, ce qu'il faut en retenir, c'est l'importance de la communication. Vraiment, là, d'avoir cette conversation-là avec les proches aidants pour voir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, comment ils se sentent. Chaque individu est différent.
Merci Sabrina pour ce partage-là. C'était vraiment très bien démontré. On semble oublier, tout ce qu'on discute depuis tantôt, qu'à la base, les soins, ça repose sur l'altruisme. Ce sont des humains qui donnent des soins à des humains. Donc, qu'on soit infirmière, infirmière auxiliaire, préposé aux bénéficiaires ou personne proche aidante, finalement, on a tous, je veux dire, un objectif commun qui est de rendre des soins de qualité sécuritaire à nos proches.
Moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans ce que tu as dit, c'est de ne pas prendre pour acquis ce que les proches aidants sont prêts à faire. Quand tu disais, ils sont prêts à le faire une fois, peut-être qu'ils l'ont fait peut-être une fois, ils sont peut-être pas prêts à le faire toujours. Et l'inverse aussi, ils savent pas, j'ai-tu le droit de le faire, peut-être pas. Donc, cette collaboration-là, c'est tellement, puis cette communication-là, c'est vraiment très, c'est nécessaire pour pouvoir s'assurer que les proches aidants, que les professionnels en soins, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.
Ben tu sais, quand on voit le proche aidant comme un membre de l'équipe à part entière, ça fait tout son sens. L'infirmière et l'infirmière auxiliaire, si elles ne communiquent pas, ça ne fonctionnera pas bien. Même chose avec les préposés. Donc, d'avoir cette conversation-là en début de corps de travail, je pense que ça peut être intéressant.
D'ailleurs, Joanne, dans ton parcours de proche aidante, est-ce que tu as un exemple à nous partager qui reflète l'importance de cette communication-là, de cette collaboration-là?
Absolument. Puis c'est le même exemple pour, je dirais, les deux côtés, le bon puis le moins bon d'une collaboration, en fait. Là. Mon père a un trouble neurocognitif. Il a suivi le parcours standard. Là. C'est très type. Tu sais, à la maison longtemps, presque trop longtemps, on a eu le soutien à domicile. Après ça, l'hospitalisation par l'urgence. Ensuite, on a eu les NSA, les fameux niveaux de soins alternatifs pour l'hébergement. Et donc, quand mon père est arrivé à l'urgence, il savait pas été où son lit, là. Il peut pas retrouver ça par lui-même. Fait qu'il y avait un diagnostic d'unité prothétique d'errance intrusive, d'unité prothétique. Alors, la menace au-dessus de sa tête, c'était, on va l'envoyer dans une unité prothétique quand il y aura de la place. Quand il était dans les lits NSA, ça a duré quand même, je pense, au moins 8 semaines, là. Puis là, mon père, il mangeait pas des mets en sauce. Pas compliqué. Fait que là, il s'est fait chicaner par une des premières préposées. Parce qu'il avait laissé la bouffe dans son cabaret. Fait qu'après, ce qu'il a retenu, c'est qu'il se faisait chicaner. Fait qu'il jetait sa nourriture dans la toilette. Fait que moi, j'y apportais des raisins, des muffins, des trucs comme ça. Il a perdu 15 livres pendant son séjour à l'hôpital. Je pense que ça l'était à la semaine 6 ou 7 avant que là, il y ait une madame en nutrition qui vient de dire « Ah ouais, mais peut-être qu'on pourrait y donner des collations au moins, puis on pourrait servir en tout cas. » Fait que je l'ai vu maigrir, puis pas beaucoup manger. Fait que moi, j'y allais à tous les jours. Puis là, la fameuse barre protéine, si c'est pour moi qu'elle mettait au micro-ondes, elle était 30 secondes, elle était trop dure, fait qu'il la mangeait pas non plus. Alors, je l'ai vu dépérir. Puis là, j'ai insisté pour qu'il soit habillé, pour qu'il ait des casse-têtes, pour qu'il ait des activités, pour qu'il mange pas seul dans sa chambre. Puis finalement, on nous a proposé l'hébergement hors territoire de façon temporaire. Fait que je pense que je peux le dire, là, mon père est allé au CHSLD de Quaticook pour être un peu évalué dans un environnement d'hébergement pour lequel les gens ont dit, mais votre père, il est tout à fait gentil, collaborateur, il pouvait aider les infirmières. Alors finalement, quand la maison des aînés de Quaticook a ouverte, il a été le premier résident à traverser les portes. Il était tout content, lui, de s'en aller quand il y a eu le déménagement. Fait qu'il était le premier à rentrer dans la maison des aînés. Puis aujourd'hui, il y a une vie. Faut voir les photos là, pour voir que ce monsieur-là n'aurait jamais dû se ramasser dans une unité prothétique. Puis je vais juste conclure là-dessus parce que si si ça avait été ça le diagnostic, puis si c'est là qu'il s'était ramassé, j'aurais jamais pu le faire sortir de là. Ça aurait pas été possible probablement.
Fait qu'on voit le fait que tu as pris parole.
Oui.
Mais ton père, au lieu d'être sur une unité prothétique fermée à double tour, là, excusez l'expression, mais c'est un peu ça,
oui.
S'est ramassé finalement dans un milieu davantage adapté à ses besoins.
Absolument.
Mais il a fallu que tu t'en mêles.
Ah oui, beaucoup. Puis j'étais là, tu sais, tous les jours, tous les soirs, j'étais brûlée, moi, là, à amener les raisins, parce qu'il faut aller à l'épicerie, il faut que je travaille. Ma mère est en dépression à la maison, elle pleure. Il faut que je m'en occupe du mieux que je peux. Fait que, tu sais, c'est vraiment un peu fou. Puis des fois, là, comme tu sais, quand l'hiver est revenu, là, j'étais pas bien, là, parce que je revivais ça. Mais reste que oui, c'est pour ça que je me suis battue, puis c'est ma grande fierté aujourd'hui quand je vois les photos de mon père à la résidence. Puis cette vie-là qui est proche de la normale, malgré la maladie, ça l'a valu tout ça. Mais c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, malgré la charge de travail, parce que c'est tellement important. Puis c'est tellement facile. J'ai besoin de le dire, là, mais les collaborateurs là qui sont autour de mon père, l'empathie qu'ils ont, la vie qui est normale. On n'est pas dans les contentions, on n'est pas dans l'aldol, on n'est pas dans ce milieu-là. Puis ça se peut. C'est juste pour vous dire à quel point ça se peut. Puis c'est pour ça que je prends la peine de venir vous partager ça aujourd'hui.
C'est tellement touchant, c'est inspirant. Je pense que ça va éveiller ouvrir les horizons des gens qui vont nous écouter. Donc, considérer les proches aidants comme partie prenante de l'équipe, c'est très parlant. Mais je pense qu'aussi, ça a un effet bénéfique, bien sûr, pour les usagers. La présence de leurs proches aidants qui vont être capables d'identifier, de parler de leurs besoins, de leur réalité aussi avant l'épisode de maladie. Mais Sabrina, je pense que quand on fait partie de l'équipe de soins, avoir un proche aidant dans notre équipe, ben ça a beaucoup, beaucoup d'avantages, beaucoup d'atouts. Qu'est-ce que tu nous dirais par rapport à ça?
Ben puis effectivement, puis tu sais, dans le fond, c'est peut-être pas si compliqué comme changement, parce que en fait, oui, c'est un changement de culture, sauf qu'on en fait déjà en tout temps là de la collaboration avec les proches. Mais c'est quoi le pas de plus qu'on peut faire? C'est quoi la prise de conscience qu'on peut avoir? Puis c'est peut-être de se rappeler de certains gestes clés en lien avec ben comment créer, entretenir un lien de confiance avec les proches aidants, qui confient un être aimé là, en toute vulnérabilité. On a parlé de la communication, mais comment bien les informer, mais aussi les écouter, véritablement les entendre et considérer leur savoir, qui est un savoir qui provient de leur expérience, savoir expérientiel qui est complémentaire au savoir professionnel. Puis comment on peut les impliquer, développer l'aisance d'avoir cette conversation-là dans le respect de des volontés et des capacités des proches aidants, mais d'avoir quand même la conversation. Saviez-vous, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas tout le monde qui le sait. Hein. On a cette pensée-là quand on va visiter à l'hôpital, faut pas rien toucher, faut pas déranger, on veut pas se faire dire de partir, donc on se fait tout petit. Ben c'est ça, c'est vraiment là, la richesse de cet échange-là. Puis ben on en fait de la collaboration, mais on peut toujours s'améliorer. C'est quoi le petit pas qu'on vise à faire de plus? D'ailleurs, on a une multitude d'outils qu'on a développés dans le cadre du projet pilote à ce sujet-là là, qui sont disponibles pour aider, mais c'est rien de très complexe.
Donc, pour les équipes, est-ce que tu as des exemples concrets peut-être de comment ça peut venir bonifier le quotidien?
Oui, ben il y a plusieurs effets positifs, puis il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les usagers, il y en a pour les proches aidants, puis il y en a pour les équipes aussi. Je vous donne quelques exemples. T'sais, on y pense pas toujours là, mais au niveau de la sécurité, la présence et la vigilance d'un proche va contribuer à prévenir les erreurs de médicaments, les chutes, le délirium et tout ça. Au niveau de la fluidité, ben c'est un allié important dans la planification du congé, anticiper les besoins à domicile, puis réduire le phénomène des portes tournante. La satisfaction, évidemment, hein, si on se met à la place d'un proche aidant qui vit une expérience, on a des attentes, puis ben ça fait qu'on est plus satisfait. Ça fait une diminution des plaintes, des conflits, tout ça. Des meilleurs résultats sur la santé aussi. Puis ben même au niveau de travail, c'est sûr que quand ça se passe bien pour tout le monde, ben le personnel va passer une meilleure journée au boulot, c'est certain. Ça réduit, tu sais, quand on pense, là, on a une formation, c'est pour prévenir les conflits conflits avec les proches. C'est toujours à la base là, ces principes de collaboration-là. C'est un manque de communication, d'information et tout ça. Donc, bref, il peut avoir des avantages pour tout le monde. Faut le voir comme c'est pas une affaire de plus. C'est pas une tâche à se rajouter, mais c'est de travailler différemment. Puis, tu sais, de mon côté, je suis pas infirmière. Fait que si vous me permettez de vous emprunter le micro d'animatrice 2 minutes, ben, je vous poserai la question à vous deux. En tant qu'infirmière, croyez-vous que ça prend plus de temps de travailler et d'impliquer les proches aidants?
Non, en effet, ça prend pas plus de temps. On a déjà eu des discussions, toi et moi, souvent là-dessus. Fait que je vais répéter encore la même affaire. C'est tout dépend de la façon qu'on va le faire, bien sûr. Déjà, si on part de leur connaissance, de leur expérience, c'est à nous de s'adapter à ça. On se rend compte que finalement, ça prend pas plus de temps. Puis parfois, oui, ça peut être un 5 à 10 minutes qui va être très bien investi au final, te donner des exemples très concrets. Moi, j'ajoute, par exemple, l'utilisation des contentions. On sait très bien que les contentions, ça paraît souvent quelque chose hein, rapide, mais en réalité, une contention, c'est supposé être exceptionnel et de dernier recours. Et normalement, je devrais augmenter mes surveillances, je devrais augmenter le temps que je passe auprès de la personne sous contention et non pas le contraire. Donc, imaginez si on peut éviter tout ça. En tout cas, pour moi, là, c'est gagnant toujours.
Puis, je rajouterais, là, on le voit dans une unité du projet pilote qui est très, très avancée là-dedans. Par exemple, elle n'a plus de surveillance constante sur ça. C'est très, 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 très rare parce que les proches sont là, et sont impliqués, ils se sentent bienvenus. Donc, juste ça, c'est un élément qui parle quand même.
Des accomplissements extraordinaires par des gens dévoués. Voici le coup de cœur de la DSI.
Aujourd'hui, le coup de cœur de la DSI concerne la participation des personnes proches aidantes lors des tournées médicales aux soins intensifs chirurgicaux du CHU Hôpital Fleurimont. Récemment, en mars 2025, un reportage a été réalisé par Radio-Canada sur cette initiative des soins intensifs. Les personnes proches aidantes sont ainsi mieux informées et en temps réel de l'état de santé de leurs proches. Bien que tout cela demeure très professionnel et peut parfois sembler très technique et complexe pour ces personnes, considérant que la priorité pour l'équipe de soins demeure de bien effectuer leur travail et d'échanger les bonnes informations, les proches sont invités à poser des questions et aussi aider l'équipe à offrir des soins plus personnalisés à l'usager en fonction de leurs besoins, valeurs et désirs réels.
Soins sécuritaires, réontologie, L3S, acte réservé. Ai-je le droit?
En tant que professionnel en soins infirmiers, ai-je le droit de faire participer une personne proche aidante aux soins d'assistance, tels que les soins d'hygiène pour un usager? La réponse est oui. Cependant, certaines conditions doivent être respectées pour permettre la participation d'une personne proche aidante aux soins d'assistance en toute sécurité. Tout d'abord, il est essentiel d'obtenir le consentement et la volonté de l'usager et de la personne proche aidante. La participation du proche aidant ne doit pas être utilisée pour pallier une surcharge de travail ou un manque de personnel, mais doit découler d'un désir sincère de cette personne de s'impliquer pour son proche selon ses capacités. Ensuite, l'usager doit être considéré comme relativement stable selon l'évaluation d'une professionnelle habilitée à évaluer telle qu'une infirmière. Les soins d'assistance délégués doivent également pouvoir être réalisés par une personne seule. La professionnelle habilitée doit évaluer les connaissances et les capacités des personnes proches aidantes à collaborer selon le type de soins d'assistance visé. Elle doit s'assurer que la personne connaît bien et respecte les limites de sa collaboration et sait comment et à qui s'adresser en cas de question ou pour rapporter des éléments pertinents à la condition de santé de l'usager. Il est également important de s'assurer que la personne proche aidante sait où et comment se procurer et utiliser le matériel ou l'équipement nécessaire à la réalisation des soins. Il est crucial de valider régulièrement le niveau d'aisance de la personne et de l'usager et de rectifier la situation si nécessaire. Un rappel que, comme pour toute intervention réalisée par une professionnelle, cette dernière doit documenter sa démarche clinique menant à la décision, au sein de la documentation infirmière, de faire participer la personne proche aidante. Nous vous invitons à consulter la section « Agir pour et avec l'usager, ses proches et la population » disponible dans l'intranet. Plusieurs formations sont également disponibles via l'ENA, dont les liens se retrouvent aussi dans cette section de l'intranet. Une procédure clinico-administrative sur la collaboration des personnes proches aidantes sera bientôt disponible pour soutenir les professionnels de la santé dans ce processus. Restez à l'affût.
Équité, diversité, inclusion. La Minute EDI avec Franck Boulaslage.
Capacitisme. Le capacitisme est un terme désignant les discriminations et les préjugés envers les personnes en situation de handicap. Il se manifeste par des comportements, des attitudes et des politiques qui favorisent les personnes perçues comme valides, tout en marginalisant ou en dévalorisant celles avec un handicap. Cela peut se traduire par des barrières à l'accès aux infrastructures, à l'emploi, à l'éducation ou même par des stéréotypes qui limitent la perception des capacités des personnes handicapées. Un exemple courant serait un employeur qui refuse d'embaucher une personne en fauteuil roulant, sous prétexte qu'elle ne pourrait pas accomplir certaines tâches physiques sans même envisager des aménagements possibles. Cela présuppose que la personne est moins compétente simplement à cause de son handicap, ce qui reflète une attitude capacitiste. Pour combattre le capacitisme, il est essentiel de promouvoir l'inclusion et de repenser l'accessibilité, de déconstruire les idées préconçues sur ce que signifie être capable. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la section Équité, diversité et inclusion dans l'intranet du SUS de l'Estrichus. Merci.
Donc, exceptionnellement pour aujourd'hui, il y a une deuxième minute EDI qui concerne la diversité chez les personnes proches aidantes. Je trouvais ça important qu'on en parle parce que quand on parle de personnes proches aidantes, on pense souvent à un rôle universel. Mais en réalité, chaque expérience est unique. L'équité, la diversité et l'inclusion vont venir jouer un rôle clé dans la reconnaissance et le soutien de ces personnes-là. Donc, l'équité, c'est de s'assurer que chaque proche aidant reçoit le soutien dont il a besoin en fonction de sa réalité. Un aidant, par exemple, qui travaille, une personne qui est issue d'une communauté culturelle, ben, vont avoir des réalités différentes. La diversité, c'est de reconnaître que les aidants peuvent être aussi de tous âges, genre, culture ou milieu socio-économique. Il peut s'agir d'un conjoint, d'un ami, d'un enfant adulte, donc chacun vit son rôle différemment. Et l'inclusion, ben, c'est de faire en sorte que toutes ces personnes-là trouvent leur place dans nos services de santé et de soutien. Ça passe par une écoute active, une communication adaptée et des actions concrètes pour éviter que certains aidants ne soient pas laissés pour compte. Donc, prendre soin des personnes proches aidantes, c'est aussi comprendre leur diversité, adapter nos approches pour qu'elles se sentent toutes soutenues et valorisées.
Donc, Joanne, j'ai envie qu'on te laisse le mot de la fin pour cet épisode du balado, à savoir finalement, là, qu'est-ce qu'on peut retenir, peut-être en trois points, de l'approche et de comment on peut collaborer avec les proches aidants?
Oui, bien parfait, merci. D'abord, j'ai envie de dire, puis c'est Sabrina qui me l'avait mentionné lors de notre première rencontre, échange téléphonique, elle avait dit, je vous rassure, on n'est pas si loin. Puis ça faisait tellement de sens que c'est ça les intentions des soignants, c'est ça les intentions des institutions. On veut tous la même chose au final. Puis c'est vrai que le petit pas, c'est peut-être un petit pas qui reste à faire pour qu'on se retrouve dans les mêmes qualités de soins, j'ai envie de dire. Mon deuxième point, ce serait peut-être de s'impliquer. Ça, c'est le message que j'ai pour les intervenants, là. Ça signifie parler, nommer des solutions, tester des outils, essayer tout ce qui peut vous simplifier la vie, là. Prenez la parole quand elle vous est offerte, revenez à vos valeurs. Quand ça va mal, c'est ça qui nous aide à garder le focus. Vous êtes du personnel de première ligne, là. Puis c'est ces tâches-là qui font partie de la mission, la partie la plus importante de la mission, peut-être que je pourrais dire comme ça. C'est au front qu'il va se faire la différence entre une situation qui coule de soi ou une qui va déraper. Je crois profondément à ça, puis c'est pour cette raison-là que je m'implique autant dans toutes les opportunités de collaboration avec les projets de proche aidance et le personnel clinique. Mon troisième point, ce serait peut-être écouter. On est soignant par choix, mais dans le premier 60 secondes, là, bonjour, je m'appelle, comment ça va aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? C'est là que va se passer le je viens juste chercher de l'information là, pour être capable de continuer ou comment ça va aujourd'hui? Puis c'est là qu'on va avoir, nous, les proches aidants et ou l'usager, la confiance de dire elle va comprendre là, que mon père, il mange pas. Ou elle va comprendre qu'il n'a pas son sandwich pain blanc ballonné puis que ça va pas bien, là. Alors, cette minute-là, cette deux minutes-là, vous en avez parlé, là, 5-10 minutes-là, c'est vraiment là que va se faire la différence. On est dans une époque de sursollicitation puis de distraction constante, là. Le focus, la capacité de centraliser sur la discussion maintenant, c'est ça qui va faire la différence pour le patient, pour nous puis pour vous. Fait que j'y crois vraiment, là.
Un immense merci, Joanne, Sabrina, d'avoir été avec nous pour nous partager cette réalité-là de la proche aidance et partager avec nous là, votre beau projet qui est en cours là, dans notre SUS. Donc, c'est ce qui met fin à notre épisode d'aujourd'hui. Julie, qu'est-ce qui nous attend au prochain épisode?
Oui, dans le prochain épisode, nous allons recevoir un invité spécial en studio, Monsieur Luc Mathieu, président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, sur un balado qui traitera des différentes instances. Donc, on va entendre parler aussi nos présidentes au niveau de la FIC, au niveau du CI et au niveau aussi de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers de l'Estrie. Donc, c'est un rendez-vous.
C'était Sophie Martin
et Julie Blanchette.
À la prochaine!
Le balado de la Direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrie-CHU, Savoir et Stéthoscope, est produit et réalisé entièrement par l'équipe de la DSI. Ce balado a été enregistré et monté dans les studios de CEFAC 88.3 à l'Université de Sherbrooke. Merci à eux. À la prochaine pour plus de Savoir et Stéthoscope.